Le français est la langue dominante, pas seulement au niveau exposition, mais aussi au niveau pouvoir. Il y a une volonté que ce soit la seule langue à l'exclusion des autres. C'est une tradition, il y a toujours une défiance vis-à-vis des autres langues en France, des soupçons de communautarisme, alors que finalement le plus grand communautarisme qui est, c'est celui qui ne pousse à parler qu'une seule langue.
La langue de la République est le français. C'est écrit ainsi dans la Constitution, c'est donc la seule langue officielle du pays. Mais alors, quelle est la place pour toutes les langues régionales? Il y en aurait une vingtaine en métropole, une cinquantaine dans les Outre-mer. Il y a des langues latines, avec l'occitan, le catalan, le corse, des langues celtiques avec le breton, germaniques avec le flamand ou l'alsacien, et même une langue isolée, le basque. Mais cette richesse linguistique et culturelle risque peu à peu de s'éteindre.
Aujourd'hui, il y a moins de 10% de la population d'élèves en âge d'aller à l'école qui apprend le breton. On est plus là dans une démarche de sauvetage de la langue.
Une loi récemment adoptée a pourtant mis en avant ce patrimoine, la loi Molac, du nom de l'élu qui l'a initiée.
Une véritable réconciliation dans notre pays.
Elle accorde à ces langues régionales le statut de trésor national. Elle encourage aussi leur utilisation dans les services publics ou à l'école. Sauf que dans la foulée, le Conseil constitutionnel a retoqué un article qui portait sur l'enseignement immersif. Autrement dit, faire l'école entièrement en basque ou en catalan par exemple, méthode anticonstitutionnelle d'après les sages.
L'immersion est le seul système qui permet vraiment à une langue de se maintenir vivante. Et ici, comme l'immersion, elle a été présente, je pense qu'elle participe au fait que la langue basque elle se maintient assez bien pour l'instant.
En France, 120 000 élèves sont en cours d'apprentissage d'une langue régionale. Dans le public, il existe des écoles bilingues, avec la parité horaire dans les deux langues. Seul le réseau associatif propose, lui, une pédagogie immersive dont les études prouvent qu'elle n'altère en rien le niveau en français des enfants. C'est dans une école où tout se déroule en basque, une ikastola, que Bichente Vrignon nous amène pour débuter son reportage. Enseignement des langues régionales, les minorités veulent se faire entendre.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes ici au village de Larcevaux, 400 habitants, en Basse-Navarre, en pleine zone rurale. C'est là que CHK a choisi d'implanter l'un de ses quatre collèges qui accueillent les enfants des communes environnantes. Au Pays Basque, le système immersif a été implanté dès 1969 par les Ikastola, les écoles en langue basque. Elles sont fédérées au sein d'une association, CHK, la Fédération des écoles en langue basque.
Je m'appelle Arguichuk Laveri, j'ai 14 ans et j'habite à Mauléon.
Bonjour, je m'appelle Anitel Kegaray, j'ai 14 ans et j'habite à Mauléon.
Bonjour, je m'appelle Eloïse Chabarex, j'ai 14 ans et je suis au collège de Mec à Larcevaux.
On est ensemble depuis la maternelle, depuis l'école primaire.
Avec mes grands-parents, je parle en basque, avec ma sœur, avec mes parents, on communique toujours en basque.
C'est pas compliqué d'arriver à avoir un bon niveau en français quand on est environné de basque tout le temps comme ça?
Je sais pas trop comment j'ai réussi, mais je sais pas forcément. Après, avec mon frère, parfois, on a des activités, le handball, le football. Et du coup, je pense qu'avec les amis en dehors du collège, on parle français.
Le basque, il commence à se perdre. C'est dommage parce que c'est une richesse. Et donc, le fait de continuer en basque, ça... Ça nous enrichit. Je sais pas, c'est naturel, on vit au Pays Basque, c'est bien de parler la langue d'ici. On n'impose à personne le fait de parler basque, c'est nous. Après, bien sûr, on encourage, mais c'est vraiment pas une obligation.
Comment vous vous projetez dans votre vie, dans l'avenir, au lycée, puis dans votre vie professionnelle?
Oui, moi je compte rester au Pays Basque pour continuer à parler basque. D'abord, je veux terminer mes études en basque. Je veux aller à Etxepare, à Bayonne. C'est un lycée basque. Et après, moi, je comptais bien mettre mon enfant à l'Ikastola pour faire continuer à vivre cette langue.
T'as pas envie d'aller voir ailleurs, de voyager, de t'installer ailleurs?
Peut-être, mais pendant un certain temps. Après, je pense que je reviendrai quand même parce que c'est joli. Et puis, il y a ma famille, tout le monde qui est ici, mes amis. Donc, même si je pars, je pense que je reviendrai.
Je pense que c'est important pour mes parents et pour mes grands-parents que je reste ici et que je continue à parler en basque et que mon mari apprenne le basque s'il est français ou qu'il soit intégré dans cette culture.
Je m'appelle Elorie Falcha et je suis professeure de français. Moi, étant ancienne élève des Ikastola, ça a été tout à fait logique. Moi, je vis en basque au quotidien et travailler en Ikastola, ça me permet de continuer de vivre en basque et de vivre encore plus en basque au quotidien.
On est au cœur du Pays basque ici. C'est là que la langue basque s'est le mieux maintenue. Quelle est la proportion des élèves qui ont la langue basque comme langue maternelle?
Je dirais qu'ici, dans notre collège, au moins 75% des élèves ont un parent qui parle basque. Le système immersif, il permet de sortir la langue du simple milieu familial, justement, et de lui donner une réalité au quotidien. Après, ça suffit pas. C'est-à-dire que nous, on voit bien que ce qui nous manque maintenant, c'est plutôt tout ce qui est activité extrascolaire, etc. On est assez limité.
C'est-à-dire qu'elle se pratique en français?
Beaucoup. Et donc, on est en train de vivre une situation où l'école est quasiment le seul endroit pour nos élèves où ils parlent basque. En dehors de la famille, évidemment. Ça a été prouvé, l'immersion est le seul système qui permet vraiment à une langue de se maintenir vivante. Et ici, comme l'immersion, elle a été présente, enfin elle est présente depuis longtemps et elle est de plus en plus présente, je pense qu'elle participe au fait que la langue basque elle se maintient assez bien pour l'instant.
Ici, les enfants parlent le basque à la maison, parlent le basque à l'école. Vous êtes prof de français. Ils ont des difficultés en français?
Ils n'ont pas plus de difficultés en français que les élèves qui ne font que du français. Les difficultés, elles sont au niveau de l'orthographe, mais on est complètement dans la moyenne française. Ils n'ont aucune difficulté à acquérir le français puisque le français, ils l'entendent forcément à l'extérieur de l'école, dans leur, voilà, comme je disais, dans leurs activités extrascolaires. Ils l'entendent tout le temps. Ils arrivent ici complètement bilingues ils le sont depuis un certain temps déjà.
Ils ont la même maîtrise dans les deux langues?
Oui. De toute façon, on ne peut pas vivre entièrement dans une langue autre que le français, concrètement, parce qu'on le voit bien, nous... Même si on passe nos journées à parler en basque, on n'y arrive pas à parler uniquement basque, donc on ne peut
pas.
Parce qu'on est sur le territoire français, que tous les services sont en français, que la présence de la langue basque est encore très 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 minoritaire. Même si ici on a l'impression qu'on parle tous basque, on est dans une île.
En matière d'enseignement immersif, le Pays basque est la région la plus dynamique, celle qui a poussé l'enseignement immersif le plus loin. Le lycée Bernat Etchepade à Bayonne est flambant neuf. L'équipe d'enseignants dirigée par Iban Tikoipe conduit les élèves vers des bacs généraux, mais aussi technologiques et professionnels, avec un enseignement 100% en langue basque.
Iban Tikoipe, le directeur du lycée Bernat Etchepade de Bayonne. Ici, on est dans la cour du lycée Bernat Etchepade, un lycée général technologique et professionnel depuis 4 ans maintenant. C'est la cinquième année où on a ouvert une section professionnelle au lycée, qui était déjà un lycée général et technologique.
Les élèves qui s'orientent vers des filières professionnelles ou technologiques, c'est des élèves qui ont plus de difficultés avec le système scolaire classique. Pourquoi vouloir proposer l'immersion pour ces élèves-là?
Alors, c'est sûr qu'il y a une proportion d'élèves qui est fâché, je dirais, avec le système éducatif traditionnel qu'on retrouve plus en section professionnelle, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des élèves vraiment qui ont un projet d'orientation bien défini et qui sont là vraiment par goût et par choix. Il y a 5 ans, au sein de la Fédération des Ikastola de CHK, il y avait eu une réflexion qui avait été menée justement sur l'ouverture de sections professionnelles. quelles sont les attentes de la société, du monde du travail. Et on s'était rendu compte que l'euskara, que le basque, c'était vraiment un plus dans un certain nombre de métiers, comme par exemple le commerce justement, ou le commerce transfrontalier, où on a des élèves qui sont à minima trilingues, français, basque et espagnol, et qui ont des notions d'anglais en plus. Donc voilà, ça leur permet d'avoir un bassin de travail qui est beaucoup plus élargi. Et c'est aussi un besoin de la société d'avoir des travailleurs formés qui puissent travailler dans des crèches bascophones qui sont en train de se développer de plus en plus, dans des EHPAD avec des personnes âgées qui, eux aussi, avec ont eu, de par leur vie, une relation avec la langue basque qui a des fois été compliquée. Et c'est un plus pour ces personnes-là qui puissent être assistées par des jeunes, par des gens qualifiés et qui sont bascophones. Donc voilà, c'est vraiment, on répond à une attente de la société qui a besoin de travailleurs qualifiés et qui sont bascophones.
Très pragmatiquement, aujourd'hui, avoir un enseignement en basque, ça ouvre le marché du travail plus largement ?
Oui, exactement. Exactement, ben, à cause de ce que je disais, hein, dans le marché du travail aujourd'hui, des entrepreneurs, des associations, des structures publiques cherchent des travailleurs qui sont bascophones, qui sont totalement bascophones et qui puissent communiquer avec l'ensemble de leur public en français, en basque. Et comme je le disais tout à l'heure, une majorité de nos élèves maîtrisent aussi l'espagnol, hein, donc c'est une langue qui est présente pas loin d'ici. Donc oui, c'est ça leur ouvre, je pense, beaucoup de portes.
Pays basque.
Dans le monde de l'enseignement des langues régionales, tout le monde connaît la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. On l'appelle la loi Molac, du nom de ce député breton qui l'a rédigé et fait adopter. Nous sommes allés rencontrer Paul Molac dans son fief à Plouermel, là où il a implanté sa permanence parlementaire dans le Morbihan.
Merci, chers collègues. Nous allons maintenant procéder au scrutin.
21 mai 2021, Assemblée nationale.
Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi et vous prie de regagner vos places. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 342, exprimés 323, majorité 162, pour 247, contre 76. Elle est adoptée. Oui, monsieur le rapporteur, en quelques mots.
Je voulais juste vous remercier pour votre soutien et je pense que nous avons fait là une véritable réconciliation dans notre pays.
Quelle est la genèse de cette loi ? Pourquoi vous avez voulu écrire une loi sur les langues régionales ?
Qui, finalement, sont ceux qui défendent les droits de l'homme, qui défendent la culture, si ce n'est les défenseurs des langues régionales ? L'aspect moral du combat, il est en notre faveur. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut à la fois se dire qu'on défend les droits de l'homme et empêcher et faire des politiques qui consistent à éradiquer les langues que porte une partie des populations. On est bien gentil en train de nous dire, ben là, tous les citoyens en France sont égaux, donc, eh bien, ils n'ont qu'à parler que français. Je suis désolé, c'est pas entendable d'un point de vue des droits de l'homme. La morale, la raison est de notre côté. Par exemple, l'immersion. C'est une méthode pédagogique efficace. Je dirais même la plus efficace pour que les locuteurs soient vraiment des locuteurs complets. Et, comme par hasard, elle est utilisée dans les écoles françaises à l'étranger. Elle est même utilisée, j'allais dire, en fac, où il y a des diplômes qui sont entièrement en anglais. Et comme par hasard, quand il s'agit d'une langue régionale, ah là, on ne pourrait pas le faire.
Comment, quand on est dans l'opposition, on arrive à rallier une majorité de députés et de sénateurs pour faire voter une loi ?
Alors ça fait partie du travail de lobbying, si je puis dire. Et dans ce type de loi, qui sont des lois un peu où, finalement, personne n'a envie de voter véritablement contre. Mmh. Ou alors, il faut n'avoir aucune langue régionale, mais il y a beaucoup de députés qui en ont.
Mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas aussi, ça leur importe peu.
Vous savez, les minoritaires sont majoritaires. Eh oui, c'est. On a toujours l'impression qu'on est tout seul. Et ben non, quand les Bretons, les Basques, les Occitans, les Corses, les Catalans, les Alsaciens, les Flamands s'y mettent, plus quelques représentants des langues d'Oïle comme le Poitevin, le Gallo, le Picard, le Normando-Picard, etc. Eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, au niveau de la géographie, on est majoritaire. Et bon, finalement, les petit à petit, l'aversion pour les langues régionales en France s'estompe au fur et à mesure que les langues disparaissent. Parce que les gens se disent, mais quel intérêt de faire disparaître ces langues-là? Quel intérêt d'avoir une politique qui est une politique d'éradication? Ça n'a aucun sens.
Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un débat idéologique sur c'est quoi être français, le séparatisme? Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des indépendantistes qui s'agitent pour séparer la Bretagne, le Pays Basque de la France?
Moi, je dirais pas ça, parce que les indépendantistes, en fait, quand on regarde bien quel poids politique ils ont, combien ils font dans les urnes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème d'indépendantisme breton, basque ou autre chose. Le problème, c'est un nationalisme français exacerbé. Enfin, regardez les chaînes d'infos. Quand vous avez des gens qui vous disent qu'il faut donner des prénoms français à vos enfants. C'est quoi un prénom français? Enfin, et qu'on glose là-dessus pendant des heures et des heures. La France n'est-elle pas en train de se fermer sur une identité fantasmée? Le problème, c'est pas les régionalistes, le problème, c'est pas les allogènes de la République, le problème, c'est la République elle-même qui sait plus où elle en est.
Les langues régionales sont en effet une richesse, un trésor, non pas seulement régional, mais bien national et international. Pourtant, cette richesse, malgré les efforts soulignés par Monsieur le ministre tout à l'heure, sont classés en grand danger d'extinction par l'UNESCO.
En Bretagne, cette année, un peu moins de 20 000 élèves sont scolarisés dans des écoles enseignant le breton, quelle que soit la méthode d'apprentissage de la langue, qu'elle soit totale, partielle, dans le public, dans l'associatif ou encore dans le privé catholique. Bichente Vrignon s'est rendu à Vannes, dans le Morbihan. Il a poussé les portes d'un collège-lycée associatif d'Iwan qui prône l'approche immersive. Le réseau d'Iwan compte 48 écoles, 6 collèges et 2 lycées. Plus de 4000 élèves y sont scolarisés.
Bonjour.
Alors, je m'appelle David Le Gall, je suis professeur de breton au collège-lycée Diwan de Vannes.
Qu'est-ce que ça veut dire Diwan?
Alors, Diwan, ça veut dire le germe, c'est-à-dire qu'on met la graine, et puis aux enfants de grandir, d'être heureux, de se développer, de fructifier, et de développer la langue bretonne autour d'eux.
Si je sors dans la cour, là, 100% des élèves vont parler breton?
Non, pas 100%. Je ne sais pas quel pourcentage. Non, pas 100%. Certains sont encore en apprentissage, d'autres sont un petit peu réfractaires. Donc, vous allez entendre français, vous allez entendre parler breton, selon les élèves.
Et à quoi ça sert de parler breton?
Eh bien, à quoi ça sert de parler français? Ça sert à vivre, ça sert à avoir une ouverture d'esprit sur les autres, ça sert à avoir une ouverture sur un monde complètement différent du monde roman en général, de pouvoir avoir accès à de la littérature, à de la poésie, à des chansons qui sont complètement différentes de la culture latine. Ça sert à avoir une ouverture sur le monde extérieur. Mais en fait, je vais vous parler de ma propre expérience, c'est-à-dire que moi j'ai appris le breton à 17 ans. Je suis marié avec une bretonnante, mes 5 enfants parlent breton. Mes 5 enfants parlent breton avec mes parents, ce que j'ai pas pu faire moi. Et mes 5 enfants parlent breton avec mon arrière-grand-mère. Donc en fait, c'est pas quelque chose d'artificiel du tout, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. les mentalités changent, on se rend compte, enfin j'espère que les gens se rendent compte que de parler breton ou d'enseigner le breton n'a pas une, il n'y a pas de politique anti-républicaine dans le fait de parler breton. Ce que je veux dire, c'est que moi je suis républicain, je parle breton tous les jours. Enfin, c'est extraordinaire de voir ce mélange des idées en mettant cette idée sous-jacente que de parler breton, on serait anti-républicain. Non, c'est complètement absurde. Et il faut passer par des lois pour instaurer l'enseignement du breton dans toutes les écoles publiques. Il faudrait, pour pouvoir justement offrir cette ouverture d'esprit à tous les enfants de Bretagne et de France.
Ça, c'est la sonnerie de fin de cours ?
C'est la sonnerie de fin de cours.
Interception sur France Inter.
Le collège-lycée du Morbihan de Diwan est dirigé par Sylvain Deron, qui est un jeune prof de biologie, comme on disait autrefois. Sylvain Deron, bonjour.
Bonjour.
Ce collège-lycée, il est tout neuf.
Oui, effectivement, les locaux sont tout neufs, tout rénovés, en fait, durant l'été dernier et l'année précédente par la région, hein. Donc ça a ouvert en septembre, hein, de cette rentrée. C'est des beaux locaux, bien spacieux. Là, on a vraiment la place qu'il faut pour se développer sur 20, voire 30 ans même.
Ici, vous appliquez le système immersif.
Alors ça veut dire qu'en fait, la langue de l'établissement, la langue de vie et la langue d'enseignement, c'est le breton. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sous contrat associatif avec l'Éducation nationale. Donc on enseigne les programmes d'éducation nationale, mais la langue vecteur d'enseignement, c'est le breton.
Le système immersif, est-ce que c'est une garantie de succès ?
Alors au niveau de la maîtrise de la langue, oui. On est aujourd'hui les seuls à proposer une offre immersive en langue bretonne et les seuls à proposer tout ce pack culturel qu'il y a autour aussi.
Le soupçon sur les écoles associatives qui est souvent porté, c'est des écoles militantes. On n'apprend pas que la langue, on leur apprend aussi des théories politiques, des idées politiques.
Alors, le côté militant, je vous dirais oui pour ce qui est de la défense de la langue. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'enseigner le breton sans contextualiser tout ça. Mais après, on fait pas de politique avec nos élèves. On leur apprend le breton, on leur apprend le programme de l'éducation nationale et on leur apprend une culture qui est un mélange d'ailleurs de culture bretonne et de la culture française aussi, puisque de toute manière, on va pas se leurrer. Quand ils sortent de l'établissement, ils baignent dans un milieu entièrement francophone pour la plupart. Après, aller dire qu'on leur apprend des théories politiques, c'est de l'ordre du mythe ou du fantasme. Voilà. Quand j'étais, moi, élève à Diwan, on entendait des gens qui disaient on leur apprend à faire des bombes. C'est dire, puis quoi encore, quoi. Non, ça, le fantasme du breton intégriste, forcément indépendantiste, ça, c'est un pur fantasme. La Bretagne fait partie de la France, ça, il n'y a pas de. Diwan n'est pas là pour remettre ça en question. On est là pour préserver une langue et une culture.
Les écoles publiques, on utilise la méthode bilingue pour enseigner les langues régionales. Le temps d'enseignement, c'est 50% en français et 50% en langue régionale. Les parents qui font ce choix sont souvent fortement attachés aux valeurs de l'enseignement public, mais aussi à leur langue régionale. À Corée, à une vingtaine de kilomètres de Quimper, Rémi Toulouat enseigne en breton et en français à la classe de maternelle.
Allez, deux, Mathias. À quelle pause la chausson, nous ? Extra. Allez, deux, vite, nous. Dre, Julien, t'es tous la quête de la chausson, oui. Loana, Lola, mon ara ?
Ya.
Bon, pas cette main d'entre heures ? Ya. Nous t'éclons ?
Ya.
Bon, extra. Chachette peuse à chaussons, nous. Piu et où?
Reine des neiges.
La reine des neiges, Piu, la reine des neiges. On avait enquête. C'est qui ça?
Alwena.
Ah, Alwena Zoton. On aura Alwena? Manage? Bien?
Oui. Ah, ma classe est juste là.
Ah, Awen y est, Zoaman. On aura Awen? On aura Awen? Ya?
Oui.
Bon alors? Peut-être un peu zret pendant en néon. Pas cette mad? Oh, vous au lentic. Vous faites vos timides. Vous n'êtes pas du tout comme ça d'habitude.
Attends, Zoda, il rien dit.
Bon, prenez Craig et Gatti. On va s'y remettre.
Il rien dit.
Là, quand on est, Mars.
Alors, je m'appelle Rémi Toulouat, je suis professeur des écoles bilingues à l'école de Lorgadorette à Corée. Alors, du S-Braise est une association régionale qui fédère plus de 100 associations à l'échelle de la Bretagne historique, donc des 5 départements. En nombre d'élèves, c'est près de 10 000 désormais dans le service public d'éducation.
Qu'est-ce que ça veut dire du S?
Alors, du S, ça veut dire de langue. Pourquoi? Parce que, ce sont des classes bilingues avec un objectif d'atteindre donc une parité de compétences au terme de chaque cycle. Le cycle primaire, le collège et le lycée. Il y a deux langues de vie, c'est le breton et le français dans la classe. Il y a une langue de travail principale, parce que je fais ce choix-là, c'est le breton dans la classe. Pourquoi? Parce que je sais qu'en dehors de la classe et très vite dans les couloirs et ailleurs dans les parties communes de l'école, la langue de vie c'est le français.
Pourquoi l'école publique? Pourquoi c'est important de pouvoir enseigner en breton? Parce que c'est pas seulement enseigner le breton, mais c'est aussi enseigner en breton toutes les matières à l'école publique, alors que ça existe déjà dans des écoles associatives.
Moi, j'ai fait le choix de l'école publique par conviction, par rapport à des principes, par rapport à une adhésion à des valeurs. Le service public d'éducation est celui qui a vocation et qui a compétence pour offrir une égalité de chance et accueillir tous les enfants. L'école publique est laïque, l'école publique est ouverte, l'école publique est gratuite, authentiquement gratuite. L'école publique a l'obligation d'accueillir tous les enfants qui sont en âge d'être scolarisés. Donc voilà, l'école publique, c'est l'école de la République. Quand on est enseignant bilingue à l'école publique, on n'est pas dans une démarche d'opposant, on n'est pas dans une démarche subversive et surtout pas séparatiste, on est bien dans une démarche d'inclusion.
Mais justement, c'est ce qui a sous-tendu tous les débats sur l'enseignement, les débats de la loi Moulac, vous avez parlé de séparatisme, de conviction républicaine, et ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est si on est français, on doit parler français.
Quand on entend des discours, y compris par des autorités au niveau du ministère, qu'il y a un éventuel risque, il y a d'éventuelles déperditions d'apprentissage de la langue française, voire de déqualification ou de disqualification en termes de niveau de compétence en langue française parce qu'on apprend une deuxième langue. Enfin, c'est complètement antinomique, en fait, par rapport à toutes les études sérieuses qui ont été menées depuis très longtemps, depuis, et notamment ces dernières années, par des linguistes, par des psycholinguistes. Au contraire, l'apprentissage précoce de deux ou de plusieurs langues développe des facultés, développe, cognitivement parlant, des compétences, des capacités supplémentaires. Donc, pourquoi s'en priver? Et puis après, l'apprentissage de notre langue dite régionale, de notre langue qu'est le breton, je pense que c'est aussi une question d'identité, quoi, et c'est aussi une question de fierté, mais qui ne s'inscrit pas dans l'opposition avec le français. Au contraire, enfin. Mais voilà, aujourd'hui, il y a moins de 10% de la population d'élèves en âge d'aller à l'école qui apprend le breton. Tout réseau confondu. Donc, à ce rythme-là, dans 100 ans, on n'aura pas retrouvé un usage de la langue bretonne qui soit à hauteur de ce qu'on aimerait, parce que s'il n'y a que 10%, on peut pas dire qu'on est dans une démarche authentique de préservation. On est plus là dans une démarche de sauvetage de la langue.
Allez, ya, ya, ya.
C'est qui, Doudou, là? C'est toi, le Doudou?
Oui.
Tu t'appelles comment?
Awen.
Ah ouais, c'est le doudou ou c'est toi?
Ah
ouais, c'est toi, mais c'est pas le doudou.
Oui.
Comment il s'appelle ton doudou? Pétain, un doudou. Un ars. Un ars, Eo.
P-I-C-U.
D'accord. Nous, on s'en va. Bien avant.
Bien avant.
À Kenavo à Véchal.
Radio Kearney. Radio Arze Israël.
Gwenolé Larvolme, j'habite à Douarnenez, dans le Finistère, et je suis actuellement doctorant, après avoir été 15 ans enseignant, professeur des écoles bilingues en filière bilingue publique, à Douarnenez, dans le Finistère aussi.
Vous travaillez sur les conditions d'appropriation sociolinguistique du breton. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, dans les années 50, en gros, en Bretagne, il y a eu une rupture dans la transmission familiale du breton. Et donc, ce n'est plus une langue qui est apprise en famille, c'est une langue qui est apprise à l'école depuis la fin des années 70. Vu que c'est une langue qui est apprise à l'école et qui est principalement utilisée à l'école par les élèves, ben pour eux, c'est la langue de l'école. Et donc, moi, je travaille pour essayer de faire en sorte de créer des conditions pour qu'ils considèrent le breton comme étant leur langue et plus comme la langue de l'école. Il y a un peu un paradoxe, c'est que les gens qui apprennent le breton actuellement, ils l'apprennent surtout pour sa valeur symbolique, c'est-à-dire pour sa valeur identitaire, et pas tant que ça pour sa valeur communicative. Il faut voir dans quel monde on vit, hein. On vit dans un monde qui n'est que en français. Même dans une famille qui élèverait ses enfants en breton, où les deux parents parleraient breton tout le temps aux enfants, les enfants parleraient aussi bien français que dans n'importe quelle autre famille.
Pourquoi ?
Eh bien parce que n'importe quel média, n'importe quelle activité extrascolaire, et donc là ce n'est que de la socialisation en français. Mais il y a aussi le poids idéologique des langues, c'est-à-dire que le français est la langue dominante, pas seulement au niveau exposition, mais aussi au niveau pouvoir. Donc les enfants captent ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, une amie me disait que son fils, à qui elle parle que en breton depuis qu'il est tout petit, il répondait toujours par « ya » pour dire « oui ». Et depuis quelques mois, elle ne comprend pas pourquoi, il lui répond « oui ». Et elle n'a pas d'explication par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette petite lettre-là ? C'est difficile de comprendre, mais je pense que les enfants perçoivent les rapports de domination entre les langues. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir au niveau du niveau de français pour les élèves.
Il y a un chercheur qui dit aussi... L'enseignement, qu'il soit immersif ou bilingue, finalement, ça procure aux élèves une boîte à outils. Et ensuite, c'est à eux de décider s'ils veulent de se servir ou pas de ces outils. C'est un peu ça l'idée, le concept ?
Pour moi, pas du tout. Mais imaginez qu'on le dise pour le français. Qu'on leur apprend le français, puis après, c'est vraiment à eux de voir s'ils veulent parler français dans leur vie. Tous les programmes de l'éducation nationale ne vont pas du tout dans ce sens-là. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est extrêmement politique ce qu'on enseigne à l'école. C'est la culture, c'est la société qu'on reproduit à travers l'école. Donc de dire dans un contexte aussi diglossique que le nôtre, où il y a des rapports de domination tels entre les deux langues que sont par exemple le breton et le français, de dire on leur apprend et après ils verront bien ce qu'ils en font, eh ben, on est à peu près sûr qu'ils ne parleront pas breton. Donc si on s'arrête à ça, autant arrêter tout de suite et puis on passe à autre chose.
Vous regardez, j'imagine, aussi dans le cadre de votre travail, ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Pourquoi il y a cette crispation sur le problème des langues en France, alors qu'on la retrouve pas forcément en Suisse, en Espagne, au Canada, au Royaume-Uni ?
La relation à la langue française, elle est, en France, elle est presque religieuse, en fait. C'est considéré, la langue fait partie des fondamentaux de l'identité française. Et ma foi, pourquoi pas, enfin, c'est une langue commune, et c'est extrêmement important d'avoir une langue commune. Mais là où c'est différent par rapport aux autres pays que vous avez cités, c'est une volonté que ce soit la seule langue, à l'exclusion des autres. Et ça, c'est quelque chose qui vient de loin, hein, l'universalité de la langue française, c'est des choses qui ont été cultivées depuis longtemps. C'est une question vraiment française, hein. Je crois qu'il y a peut-être la Grèce et la Turquie qui sont des états aussi centralisés de manière linguistique, aussi jacobins linguistiquement. C'est vraiment difficile de comprendre ça, c'est une tradition, il y a toujours une défiance vis-à-vis des autres langues en France, des soupçons de communautarisme tout de suite. Alors que, finalement, le plus grand communautarisme qui est, c'est celui qui ne pousse à parler qu'une seule langue. C'est-à-dire interdire qu'il y ait cette diversité, interdire qu'il y ait l'utilisation d'autres langues.
Avant de poursuivre notre tour de France non exhaustif des langues régionales, faisons un détour par Montréal, au Canada. C'est au Québec que l'enseignement immersif est né et a fait ses preuves, sans jamais mettre en danger la langue dominante au Canada, bien évidemment l'anglais. Bichène Thévrignon a joint Jean-Benoît Nadeau, conférencier et spécialiste de la langue française.
Interception sur France Inter.
Historiquement, les écoles immersives ont été créées au Québec à la fin des années 60, pendant la Révolution tranquille, qui a été la période où les Québécois montaient en force politique et en force économique également. Et les anglophones du Québec, qui étaient une minorité importante, mais dominante au plan économique, on se sont dit, on ne peut pas vivre seulement en anglais au Québec, on va être déclassé. Et donc, un petit groupe de parents dans une école en banlieue de Montréal ont commencé à créer un programme immersif où les élèves faisaient pratiquement toute leur scolarité en français, mais dans le cadre d'une école anglaise. Ça a tellement bien marché que ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le pays. Tant et si bien qu'environ actuellement au Canada, un élève sur 10 dans les écoles anglaises fait de l'immersion en français.
L'une des luttes emblématiques du Québec, c'est la fameuse loi 101 sur le français. Est-ce que il faut absolument légiférer, comme on l'a entendu au cours du débat au Parlement en France, dire ben il n'y a pas besoin d'une loi, ceux qui veulent apprendre, ils ont qu'à apprendre et puis voilà.
Ben voyez-vous, quelque chose qui est extrêmement importante à comprendre de la loi 101, la Charte de langue française au Québec, c'est que l'immersion en anglais n'est pas possible dans les écoles françaises au Québec. Donc, c'est pas par l'immersion qu'un Québécois francophone va apprendre l'anglais. C'est même interdit par la loi, dans le cadre des écoles publiques. Mais les écoles anglophones ont le droit de pratiquer l'immersion. Une des raisons, au fond, c'est que l'anglais est tellement prégnant ici, culturellement, est tellement présent qu'un francophone, s'il fait un peu d'effort, va assez aisément attraper l'anglais sans nécessairement s'être scolarisé dans cette langue-là.
Oui, monsieur le rapporteur, en quelques mots.
Pour le député Paul Molac, breton, basque, catalan, occitan ou corse sont comme un francophone de l'Ontario au Canada. L'immersion en langue régionale ne menace pas la suprématie de la langue française.
La diversité, c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir accepter l'autre dans sa différence et je crois que c'est particulièrement important.
Ça veut dire que votre loi est encore très fragile.
Ah, ça veut dire que c'est encore fragile parce que ce qu'il faudrait, c'est tout simplement changer la Constitution. Alors, on peut le faire de façon, plusieurs façons. L'article 2, la modification me semble compliquée, mais le 75.1 complété avec une mention du genre, les langues régionales font partie du patrimoine de la France, leur enseignement est déterminé par la loi, la méthode par immersion est constitutionnelle, et là, ça règle le problème. Et terminé, il n'y aura plus de débat. Et je vous dis aujourd'hui, l'opinion a basculé. Quand vous regardez les évaluations qui ont été faites au CP, en français, des enfants qui ont suivi des maternelles uniquement en basque, vous apercevez que leur niveau de français au CP est supérieur à ceux qui n'ont fait que du français.
Il y a des enquêtes linguistiques qui sont faites régulièrement, que ce soit pour le basque, le breton, il y en a moins pour l'occitan, qui montrent qu'il y a encore un recul de la langue année après année. Est-ce que c'est pas un peu remplir le tonneau d'Anaï de votre loi ?
Et quel type de société on veut ? Je crois que le problème, il est là. Est-ce que c'est une société, finalement, où on a une langue dominante et on est avec Big Brother et avec McDo, etc. Parce que, quelque part, ne nous trompons pas. Aujourd'hui, ce sont les langues régionales qui sont menacées. Demain, avec la mondialisation, ça peut très bien être le français. Quel monde on veut ? Un monde qui soit finalement unique ? Mais dans ce cas-là, est-ce que la langue unique, ce sera le français ? J'en sais rien. Les élites sont déjà prêtes à passer à l'anglais. Hein. Je veux dire, ce phénomène-là, on l'a très bien vu justement avec les langues régionales, où à un moment donné, les élites, quelque part, sont passées au français parce que c'était plus pratique dans leur schéma et dans leur volonté de s'élever socialement. Ou alors, est-ce qu'on veut de la multiplicité et est-ce qu'on veut une société ouverte ?
L'Occitan s'étend sur 32 départements français qui rassemblent près de 25 millions de personnes, mais il reste tout au plus 1 million de locuteurs. Aujourd'hui, 100 000 élèves apprennent l'Occitan, principalement autour de Pau, Toulouse et Montpellier, et l'enseignement immersif ne concerne que 3 800 élèves. Le Béarn est l'un des territoires où la transmission est la plus forte. À Sauvagnon, une commune rurale de 3 500 habitants à une quinzaine de kilomètres de Pau, l'école publique propose un enseignement bilingue. Les enfants ont une enseignante en français 2 jours par semaine et une enseignante en béarnais les 2 autres jours.
Je m'appelle Méline, je suis dans la classe Occitan.
Et toi ?
Je m'appelle Audrey, je suis en classe Occitan et je suis en CM1 et j'ai 9 ans.
Depuis quand vous parlez Occitan ?
Depuis 7 ans, depuis la petite section.
Vous le parlez à la maison ?
Non, pas vraiment. Je parle à ma petite sœur quelques mots, mais sinon non.
Est-ce que vous avez l'occasion de parler la langue en dehors de l'école ?
Oui.
Où ?
Par exemple, à Pau, des fois.
Quand ?
Mais des fois au carnaval. Aussi, quand on fait des sorties avec l'école. Non, pas avec l'école, mais avec la classe. Et voilà.
Qu'est-ce que ça représente l'Occitan pour toi ?
C'est bien. Mes parents, ils ont dit que pour aller à la classe d'Occitan, c'était pour apprendre une autre langue parce que c'est bien d'apprendre d'autres langues que le français. Parce qu'en fait, l'Occitan, il ressemble un peu à l'espagnol. Donc on peut parler un peu Occitan en Espagne, et voilà.
Donc est-ce que c'est que le premier qui s'appelle Bichalte et est-ce qu'il s'appelle Eric? Et qui bien en a qui ou quatre sabbats, t'as eu un enregistrement de ce qui se passe en classe. Une interview sur des cours qu'est-ce.
Je m'appelle Christophe Barraquet, je suis le responsable des services périscolaires et extrascolaires à la mairie de Sauvagnon. Et mes filles sont en classe bilingue à Sauvagnon.
Derrière votre bureau, il y a une affiche par Payokbi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'était le nom de l'association qui avait été créée pour aider à la fondation et à la pérennisation de la filière sur Sauvagnon. C'est les premiers parents d'élèves qui ont aidé l'école et la mairie à porter le projet du bilinguisme à Sauvagnon.
Il a fallu créer une association, ça veut dire que c'est pas allé de soi ?
Mais il a fallu vendre un peu le projet, puisqu'il faut attirer les ouvertures de classe. Enfin, c'est le même jeu que dans le système conventionnel, c'est-à-dire qu'après, c'est le flux d'enfants qui va gérer l'ouverture d'une classe. Au tout début, les enfants étaient d'abord en classe de français, étaient déplacés. Ensuite, il y a eu vraiment des binômes qui se sont installés avec la pérennisation des classes. Mais bon, après, c'est des flux. Hein. C'est-à-dire que si on ouvre une filière, ben, on enferme une classe à côté. Donc voilà, forcément, ça demande des aménagements, des négociations. Et
ça crée des opposition, on peut le dire.
Oui, clairement, bien sûr, il y en a eu un peu. Maintenant, c'est plus le cas, c'est quelque chose d'installé, mais au tout départ, oui, parce que aussi, c'est des choix éducatifs, donc c'est la confrontation aussi de choix. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est 400 personnes ici, donc 360 enfants, les adultes, les associations de parents d'élèves, la mairie, enfin, c'est plusieurs mondes qui se côtoient avec des contraintes différentes, et du coup, c'est du débat. Donc, il a fallu aussi arbitrer ça, et que tout le monde accepte de vivre ensemble. Maintenant, c'est bien installé.
Quand on ouvre une classe bilingue, on ferme, peut-être pas tout de suite, mais au moins à terme, une classe monolingue.
Oui. Oui, c'est ça le débat, clairement. Et voilà, au début, ça a été accueilli avec méfiance. Et très clairement, dans l'installation du bilinguisme, il y avait aussi une volonté éducative d'un groupe de parents qui peut être, alors je dis pas mal perçu parce que c'est pas exactement le cas, mais ça peut susciter des incompréhensions. Il faut communiquer comme il faut quand on installe des choses comme ça, et des fois peut-être qu'il y a eu des petites incompréhensions.
Quel âge vous avez, vous ?
42 ans.
Vous êtes paysan, à la base ?
Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, oui.
Et il y en a beaucoup de votre âge qui parlent l'occitan ?
Assez peu. Moi, je ne parle pas, mais je le comprends, mais c'est quelque chose qu'on regrette un petit peu. Cette part de nos origines un peu oubliées, enfin, moi, ça me rappelle...
Vous ressentez
un manque ? Disons que ça me rappelle, c'est une petite madeleine, quand ma grand-mère me parlait, et maintenant que mes filles le maîtrisent, quelque part, enfin, moi, ça me réchauffe un peu, voilà. Et après, l'idée qu'elles partent et qu'elles ont en elles, ou qu'elles aillent plus tard, quelque part, cette part de notre territoire. Un petit héritage qu'on aura éducativement laissé, en dehors de ce que nous, en termes de vécu, on aura pu leur apporter, et qu'elles se seront construites. Et je vous dis, un outil d'ouverture. Nous, on le voit vraiment comme ça, c'est vraiment un outil d'ouverture.
Mil esker tokiko hizkuntzer buruzko interzeptzion emankizun hauen zuteagatik.
Gracias d'haber escultat aquesta emisio, interzeptzion, sobre les lenguas regionales.
Merci brador d'haber achilauet en abaden, interzeptzion, war guagen ou France Inter.
Apenoz a helauen interzeptzion.
Alor o koz de siezu rondroel gati.
Enseignement des langues régionales, les minorités veulent se faire entendre. C'était un reportage de Bichente Vrignon avec Éric Audra à la prise de son. Réalisation Charles de Cilia et Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Jean-Benoît Tétu.